Au matin du 18 janvier 1940, dans une auberge d'Atami, l'Urukoya, mourait le maître Shusai, 21e de la dynastie des Onimbo. Il entrait dans sa 67e année. Le 18 janvier, c'est une date que l'on retient facilement à Atami. Dans le démon d'or de Koyo, Kanishi dit, à la fin de la scène de la séparation sur la plage d'Atami, « Souvenez-vous, dans les années à venir, de la lune qui brillait en cette nuit. » Il s'agit de la nuit du 17 janvier, et l'on célèbre à cette date, chaque année, dans la ville d'Atami, le souvenir de Koyo. L'anniversaire de la mort du maître Shusai tombe le lendemain. Cette commémoration s'accompagne toujours de cérémonies qui furent, en 1940, plus importantes que jamais. On n'y honora pas seulement Koyo, mais aussi deux écrivains pour lesquels Atami comptait beaucoup, Takayama Shogyu et Tsubushi Shoyo. Trois romanciers qui en avaient parlé dans leurs ouvrages au cours de l'année, Takeda Toihiko, Osaragi Jiro et Hayashi Fuzao, reçurent également une récompense de la municipalité. Me trouvant présent à l'époque, je pris part à la cérémonie. Le soir du 17, le maire d'Atami nous invitait à un banquet dans mon hôtel, le Jurakuya. Le 18 à l'aube, un coup de téléphone m'éveillait. On m'annonçait la mort du maître. J'allais tout de suite à l'Urukoya pour lui rendre mes derniers devoirs. Après être revenu à mon hôtel pour le petit déjeuner, j'accompagnais les écrivains et les officiels de la ville qui devaient déposer des fleurs sur la tombe de Shoyo. Ensuite, au pavillon de Bushuan, dans un champ de pruniers, eut lieu un autre banquet. Je m'éclipsais vers le milieu des festivités et retournais jusqu'à l'Urukoya pour photographier le défunt et assister au départ de la dépouille mortelle que l'on ramenait à Tokyo. Le maître était arrivé à Atami le 15 janvier. Il mourut le 18. Il semblait vraiment qu'il ne fût venu que pour mourir. Je lui avais rendu visite le 16 et nous avions joué deux parties d'échecs. Soudain, le soir, très peu de temps après mon départ, il fut au plus mal. Il joua donc avec moi pour la dernière fois à ces échecs qu'il aimait tant. J'avais rédigé le compte-rendu de son dernier tournoi de Go. Je fus le dernier à le photographier. Le grand quotidien de Tokyo, le Nishinichi, rebaptisé depuis Mainichi, m'avait confié le reportage de ce dernier tournoi. J'étais arrivé à bien connaître le maître. Même pour une manifestation organisée par un journal, celle-ci s'entourait d'une pompe exceptionnelle. On n'a jamais rien vu de semblable depuis dans ce genre. La partie commença le 26 juin 1938, à Tokyo, dans le restaurant Koyokan du parc de Shiba, et se termina le 4 décembre, à Ito, à l'auberge de Danko. Elle se prolongea donc pendant 6 mois, en 14 séances, interrompue certes pendant 3 mois, de la mi-août à la mi-novembre, car le maître était tombé sérieusement malade, une maladie grave qui rendit ce tournoi très pathétique. On peut dire qu'en somme, ce tournoi lui coûta la vie. Jamais il ne se remit. Au bout d'un peu plus d'un an, il mourut. Pour être tout à fait précis, le tournoi se termina l'après-midi du 4 décembre 1938, à 2h42. Le dernier coup fut noir, 237. Le maître remplissait une case neutre sans rien dire. « Cela fera 5 points ?» fit l'un des juges présents. « Onoda, 6e dan, sur un ton poli, réservé. » Sans doute s'exprimait-il ainsi par sollicitude pour le maître, afin de lui épargner l'embarras de voir le damier arrangé sur le champ et sa défaite par 5 points rendue visible à tous. « Oui, 5 points, » marmonna le maître. Il releva les yeux derrière ses paupières gonflées, sans faire un geste vers le damier. Aucun des officiels qui remplissaient la pièce ne trouvait un mot à dire. Le maître, alors, parla calmement, comme pour détendre l'atmosphère. « Si je n'avais pas été hospitalisé, nous en aurions terminé à Hakone, dès la mi-août. » Il demanda combien de temps il avait utilisé pour la partie. « Blanc, 19h57, 3 minutes de plus, monsieur, et cela faisait juste la moitié du temps alloué, » dit la jeune fille qui tenait les comptes. Les noirs ont pris 34h19. Les joueurs de haut rang se voient généralement allouer 10 heures chacun pour un tournoi, mais cette fois par exception, les délais avaient été multipliés par 4. Il restait encore quelques heures aux noirs, néanmoins, 34 heures, cela semblait tout à fait inhabituel, et même sans doute unique dans les annales du jeu depuis qu'on fixait des limites de temps. Il était presque 3 heures quand la partie se termina. Une servante de l'auberge apporta une collation. Tout le monde gardait le silence, tous les yeux restaient fixés sur le damier. « Vous prendrez bien un peu de cette soupe de haricots rouges ?» demanda le maître à son adversaire, au taquet, 7e dan. « Maître, je vous remercie de cette partie, » dit celui-ci courtoisement. Il restait immobile, tête baissée. Ses mains reposaient côte à côte sur ses genoux, son visage, toujours blanc, avait encore blêmi. Encouragé par l'exemple du maître qui retirait ses pions du damier, il se mit à ranger ses pions noirs dans leur bol. Le maître se leva, puis, comme les jours ordinaires, quitta la pièce d'un air nonchalant, sans commentaire. Otake, bien entendu, n'en fit aucun non plus. Pourtant, s'il avait perdu, il aurait sans doute trouvé quelque chose à dire. De retour dans ma chambre, je regardais par hasard au dehors. Avec une célérité surprenante, Otake s'était changé. Il avait enfilé un kimono ouatiné pour descendre dans le jardin. Assis tout seul, au fond, sur un banc, il serrait contre lui ses bras croisés, fixant les yeux au sol. En cette attitude, dans le grand jardin froid, à la nuit tombante de cette fin d'automne, il paraissait perdu dans ses méditations. J'ouvris une porte vitrée de la véranda. « Monsieur Otake, Monsieur Otake » appelai-je. Il se retourna, me jeta un rapide coup d'œil, l'air fâché. Peut-être qu'il pleurait. Je portai mes regards vers ma chambre. La femme du maître venait d'entrer. « Ce fut très long. Vous avez été très bon pour nous. » Nous causâmes quelques instants. Otake avait déjà quitté le jardin, s'étant de nouveau changé rapidement, et vêtu cette fois d'un kimono plus cérémonieux, il fit une tournée des appartements du maître, des officiels et des divers organisateurs. Il vint aussi chez moi. Je me rendis dans la chambre du maître lui présenter mes respects. Le lendemain du jour où prit fin ce tournoi de 6 mois, les organisateurs et les autres personnes concernées n'avaient qu'une hâte, c'était de partir. On se trouvait à la veille des essais sur la nouvelle voie de chemin de fer d'Ito. Les trains devaient passer juste au moment des fêtes de fin d'année et de nouvel an, la grande rue s'égayait d'ornements de circonstances. J'avais été reclus à l'hôtel, dans une boîte de conserve scellée, comme on dit pour illustrer la façon dont les tournois sont coupés du monde. Maintenant, dans l'autocar qui me ramenait chez moi, devant le décor très gai des rues, je me sentais libéré. J'avais l'impression de sortir d'une caverne noire. La couleur de la terre fraîchement remuée aux alentours de la gare moderne, les bâtiments rapidement édifiés, la confusion de la ville nouvelle traduisaient pour moi toute la vitalité du monde extérieur. L'autocar quittant la ville d'Ito prit la route qui longe la côte. Nous croisâmes des femmes qui portaient des bottes de fagots sur le dos. Certaines tenaient aussi des fougères à feuilles blanches qui serviraient de décoration de nouvel an. Les autres les avaient attachées à leurs fagots. Je souhaitais me trouver parmi les hommes. Il me semblait que je venais de franchir une montagne et que j'apercevais les fumées d'un village au-dessous. Je ressentais la nostalgie des rites de la vie quotidienne, les préparatifs du nouvel an par exemple. Je fuyais un monde morbide, déformé. Ces femmes avaient fagoté. Elles rentraient chez elles pour dîner. La mer luisait d'une lueur si terne qu'on en pouvait deviner la source. Sa teinte, à la limite de l'obscurité, m'évoquait l'hiver. Cependant, même dans cet autocar, l'image du maître me poursuivait encore. Peut-être ce besoin de me retrouver en société n'était-il pas sans rapport avec les sentiments qu'il m'inspirait. Les derniers spectateurs et officiels du tournoi partaient, laissant seuls, à l'auberge d'Ito, le vieux maître et sa femme. Le maître invincible avait mis son titre en jeu pour la dernière fois. Il avait perdu. On aurait pu croire qu'il aurait été le premier à vouloir s'éloigner. D'ailleurs, rien n'aurait mieux valu, semblait-il, pour se remettre de la tension de cette double lutte avec Otake et avec la maladie, qu'un changement d'air immédiat. Le maître était-il un peu vague dans ce domaine ? Bien que tous les organisateurs et autres, comme moi-même, chargés du compte-rendu du tournoi pour mon journal, nous ayons fini par trouver l'endroit intolérable et soyons partis comme des gens qui cherchent refuge ailleurs, le maître vaincu s'attardait tout seul. Restait-il là-bas avec son air absent, laissant aux autres la charge d'imaginer sa tristesse et sa lassitude, comme pour exprimer qu'elle ne le touchait pas ? Otake, septième dan, son adversaire, se trouvait parmi les plus pressés de rentrer chez lui. Contrairement au maître qui n'avait pas d'enfant, il avait, lui, une famille pleine de vie. Il me semble que 2 ou 3 ans s'écoulèrent avant que je reçoive une lettre de sa femme racontant qu'ils étaient maintenant 16 à la maison. Je me demandais si cela s'expliquait par le caractère d'Otake ou par son genre de vie. J'avais envie de leur rendre visite. Après la mort de leur père, quand ce nombre de 16 se fut réduit à 15, j'allais leur offrir mes condoléances, un peu tardives, car je crois qu'un bon mois avait passé depuis les obsèques. Lors de cette première visite, Otake n'était pas là, mais sa femme me reçut comme un vieil ami et m'introduisit au salon. Après l'échange de civilités, elle s'avança vers une porte. « Faites-les tous venir, je vous prie, » dit-elle à je ne sais qui. Avec un bruit de pas précipité, 4 ou 5 adolescents entrèrent au salon. Ils se placèrent en rang, comme des enfants qu'on met au garde à vous. Ce devaient être des disciples. Ils pouvaient avoir de 11 ou 12 à 20 ans. Parmi eux se trouvait une grande fille bien ronde, avec des joues rouges. « Saluez le maître, » fit Madame Otake, après m'avoir présenté. Ils inclinèrent la tête d'un geste vif. Quelle chaleur dans ce foyer! Je ne voyais chez ces enfants aucune amabilité forcée. Dans cette maison, la gentillesse régnait naturellement. Dès que cette jeunesse eut quitté le salon, je l'entendis bavarder bruyamment. Madame Otake me proposa de monter au premier étage et de disputer une partie d'entraînement avec un des disciples. Elle m'apportait sans arrêt de petits plats et je restai longtemps. Cette maison de 16 personnes comprenait des disciples. Aucun des autres jeunes professionnels n'en recevait 4 ou 5 chez lui. Cela témoignait de la popularité d'Otake comme de ses revenus, mais en outre d'un sens de la famille très prononcé. L'attachement puissant qu'il portait à ses propres enfants devait s'étendre à ses adolescents. Quand il jouait contre le maître pendant le dernier tournoi, où il était scellé dans un bocal, Otake téléphonait à sa femme dès la fin de chaque séance. Aujourd'hui, le maître a bien voulu jouer jusqu'à... et il lui disait le numéro du dernier pion joué. Il n'indiquait rien de plus, ne fournissait aucune indication qui permette de deviner le cours de la partie. Je l'entendais donner de ses nouvelles, et je me disais combien je le trouvais sympathique. Le jour de la cérémonie d'inauguration au Koyokan, les noirs et les blancs ne jouèrent qu'un coup chacun. Le second jour, ils avancèrent seulement jusqu'au blanc 12. Le tournoi se transporta ensuite à Hakone. Le maître, Otake, les différents organisateurs, le personnel partirent de conserve. La partie n'étant pas sérieusement entamée, rien ne laissait prévoir l'ombre d'un conflit. Le soir de notre arrivée à l'hôtel Taisei de Dogashima, le maître, détendu, sirotant son apéritif habituel, du saké dont il prenait un peu moins d'un flacon, discourait de choses et d'autres en soulignant ses propos de grands gestes expressifs. La soirée passa de la sorte. Comme la grande table du salon dans lequel nous avions d'abord été introduits semblait être de lacs de Tsugaru, la conversation tournait autour des lacs, et voici ce qu'a raconté le maître. Je ne sais plus quand il m'est arrivé de voir un damier de go tout en lac. Pas seulement laqué, non, de la laque sèche jusqu'au cœur. Un artisan d'Aomori l'avait fabriqué pour son plaisir et prétendait que cela représentait 25 ans de travail, ce qui paraît plausible si l'on compte le temps que met une couche à sécher avant que l'on puisse en poser une autre. Les bols et les boîtes étaient de laque aussi. Il avait présenté ce jeu dans une exposition. Il en voulait 5 000 yens. Puis, ne l'ayant pas vendu, il était venu demander à l'association de Go d'en trouver 3 000. Mais, je ne sais pas, cela devait être trop lourd, plus lourd que moi, près de 60 kilos. Puis, regardant Otake, « Vous avez grossi. »« 61 kilos. »« Ah, juste le double de mon poids. Mais, pour l'âge, vous n'atteignez pas la moitié. »« Je viens de passer 30 ans, monsieur, un mauvais âge. » À l'époque où vous aviez la bonté de me donner des leçons chez vous, j'étais plus maigre. Les pensées d'Otake se tournèrent vers son adolescence. J'étais souvent malade, autant vous vouliez bien m'accueillir. Votre femme s'est montrée très bonne pour moi. La conversation bifurqua sur les sources chaudes de Shinshu, le village natal de Madame Otake, puis sur des questions de famille. Otake s'était marié à 23 ans, après être devenu 5e dan. Il avait 3 enfants. 3 disciples vivaient chez lui. Sa maison contenait 10 personnes. Son aîné, une petite fille de 6 ans, avait appris à jouer rien qu'en le regardant. Je lui ai donné un handicap de 9 points l'autre jour. J'ai noté tous les coups.
9 points ?
C'est tout à fait remarquable, dut reconnaître le maître. Et ma seconde fille, qui a 4 ans, sait déjà comment mettre les pions en échec. On ne peut savoir encore si elles auront le don, mais il y a peut-être de l'espoir. Les autres personnes, dans leurs réponses, manifestaient une certaine gêne. Otake, l'une des personnalités marquantes du monde du Go, semblait envisager avec sérieux, pour ses filles de 4 et 6 ans, si elles promettaient, une carrière de professionnelle comme la sienne. On prétend que le don du Go se manifeste vers 10 ans, et qu'il n'y a pas d'espoir pour un enfant qui n'en commence pas l'étude à cet âge. Les paroles d'Otake me frappèrent cependant par leur étrangeté. Cet homme de 30 ans, possédé par le Go, mais qui n'en avait sans doute jamais encore souffert, me paraissait bien jeune. Chez lui, me dis-je, ce doit être la maison du bonheur. Puis le maître parla de sa demeure d'alors. Elle se dressait sur un terrain de moins de 10 ars, à Setagaya, mais comme le bâtiment occupait déjà près d'un tiers du terrain, le jardin se trouvait plutôt resserré. Le maître souhaitait vendre pour s'installer dans une maison disposant d'un jardin qui serait un peu plus grand. Sa maisonnée se réduisait à lui-même et à sa femme, qui se tenait à ses côtés. Il ne recevait plus de disciples. Le Go, jeu d'origine chinoise mis à la mode par les Japonais, repose sur la notion d'encerclement. Il se joue à deux sur une sorte de damier, ou plus exactement de grille, où se croisent 19 horizontales et autant de verticales. Celles-ci se recoupent en 361 intersections, sur lesquelles se posent les pions noirs ou blancs, que les puristes appellent des pierres. Le joueur réputé le plus fort joue blanc, ce qui lui vaut quelques avantages, mais le désavantage majeur de jouer en second. Tous les coups impairs sont donc des coups noirs, les pairs des coups blancs. Les pions, une fois posés, restent sur place, à moins d'être pris, mais cela ne constitue pas le but du jeu. Chacun cherche à délimiter des territoires imprenables, tout en s'infiltrant chez l'adversaire pour détruire ses territoires à lui. Le Go est un jeu très compliqué, très intellectuel, très mathématique, du moins dans l'application, car les règles de base sont assez simples. Il existe un système de classement international, d'abord de 6e en premier Kyu, puis de 1er en 8e ou 9e Dan, comme les judokas. Le tournoi dont il est question dans cette œuvre que Kawabata Yasunari dénomme chronique s'est déroulé en 1938. L'auteur y figure sous le nom d'Uragami, le maître Shusai sous son nom de guerre, tandis que son adversaire s'appelait en réalité Kitani Minoru. La personnalité du maître paraît idéalisée, mais il symbolise sans doute, avec son autocratisme féodal, un passé qui éveillait la nostalgie de l'auteur. Que celui-ci n'ait point aimé le présent égalitaire, des mœurs démocratiques qu'il nous montre à la fois tatillonnes et balourdes, son suicide en 1972 semble en faire foi.